Donc moi, je vais vous parler aussi de la biodiversité des sols, c'est normal, c'est le titre de la journée, et en essayant de cibler un peu plus sur les productions agricoles, puisque je travaille, j'ai une formation d'écologue, hein, je suis chercheur à l'INRA Dijon, dans l'UMR Agroécologie, et je travaille donc depuis une vingtaine d'années sur les sols agricoles, grandes cultures, viticulture. Alors, bon, je vais reprendre sous une autre forme, je suis désolé un peu ce qui a été dit sur l'intérêt des sols, mais c'est toujours important. Vous me dites hein, si vraiment les diapos ne défilent pas. Vous me faites un petit warning. Que voilà. Le sol est une matrice centrale sur notre planète et surtout, il fournit des services très importants. Alors, on a des services dits d'approvisionnement sur des aliments, combustibles, recyclage des éléments nutritifs, fourniture d'habitat aussi pour les organismes du sol, et on en parlera un peu plus précisément après, etc., etc. On a aussi des services dits de régulation. On parle beaucoup de changement climatique, hein, donc séquestration du carbone, régulation du climat, purification de l'eau et réduction des contaminants du sol. On a tendance un petit peu à l'oublier sur la réduction des contaminants du sol, mais le sol est un filtre physique, chimique et biologique. Et puis, régulation des crues, ça aussi, c'est un problème de plus en plus actuel. Et puis, il y a aussi un ou des services patrimoniaux. Le sol est un réservoir culturel, indépendamment aussi du patrimoine biologique qu'il peut retenir. Donc, le sol fournit d'énormes services et il y a un essai de monétarisation de ces services il y a déjà un certain nombre d'années où on estime que si on perdait ces services, on perdrait, ça coûterait à nos sociétés environ 20 milliards de dollars par an. Voilà, bon, un peu moins que le Covid en ce moment, mais c'est quand même c'est un peu significatif. Non, je rigole, même si la situation est dramatique. Et surtout, autre chiffre très important, le sol fournit 95% de nos aliments, et même, on pourrait dire, presque 99%, parce que toutes les pêches côtières sont plus ou moins influencées par les reliquats de sol qui sont amenés à la mer, notamment en termes de matière organique, d'éléments minéraux et même de particules de sol. Voilà. Ces services fournis par le sol, petit point, est-ce que les diapos diffusent normalement? C'est bon, ça suit? Juste pour m'en inquiéter.
Oui,
Oui,
ça c'est
c'est bon.
bon, Lionel, tu peux y aller.
Non, je déroule. Voilà, donc ça a été aussi démontré par le premier intervenant. Voilà, le sol, c'est un réservoir de biodiversité très important. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à les classer sur leur taille, les plus petits étant les bactéries. Alors, non, les plus petits sont les virus. Il y a beaucoup de virus dans le sol, mais ils sont très peu connus et très peu étudiés, même s'il y a quelques équipes qui commencent à s'y faire. Parce qu'on se doute bien que ces virus, ils régulent les populations au niveau du sol. Voilà, bactéries, champignons. Donc, moi, je vais vous parler plutôt de micro-organismes aujourd'hui, parce que c'est nos compétences à Dijon. Et puis après, on arrive sur la faune du sol. Donc, encore de la microfaune, de la mésofaune, et puis des choses qu'on voit de mieux en mieux et qui sont très bien connues dans le domaine agricole. Tout ce qui est vers de terre, carabes, et que l'on voit au quotidien sur les parcelles, ou qu'on essaye de revoir au quotidien sur les parcelles. Alors, on les classe selon leur taille, mais on peut voir qu'elles ont des morphologies très différentes. Et puis, c'est aussi des ressources génétiques très importantes et très diversifiées, car tous ces organismes, bien sûr, ont des génomes différents et donc des rôles et des fonctions différentes, notamment à l'origine des services que l'on a détaillés juste auparavant. Alors là, j'ai mis quelques petites photos d'organismes un petit peu stars dans le sol, le ver nématode, le collemboles en bas à droite, les acariens et puis le fameux tardigrade. Que l'on voit même dans des films de science-fiction, des fois, j'en ai vu un dernièrement, c'était un tardigrade, voilà, qui est relativement méconnu, hyper résistant. Voilà, donc le sol est encore un environnement très mystérieux par rapport à une bonne part de sa biodiversité. Et il retient, bien sûr, ça a été dit tout à l'heure, 25-30% de la biodiversité de notre planète se trouve dans le sol, et ce chiffre est faux, puisqu'il y a encore énormément de choses à découvrir, notamment au niveau du monde microbien. Alors, si on revient plus particulièrement sur les micro-organismes. Voilà, j'ai mis un ciel étoilé sur une belle nuit d'été, très étoilé, hein, parce que c'est Hubert Reeve qui a déclaré il y a quelques années qu'il y avait plus de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel, et il savait de quoi il parlait, notamment pour les étoiles. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres d'abondance des bactéries et des champignons, on a à peu près 1 milliard de bactéries dans 1 gramme de sol, quelques millions de champignons, et en termes d'espèces, on a quelques millions d'espèces de bactéries toujours dans 1 gramme de sol, et quelques milliers à dizaines de milliers d'espèces de champignons. Donc, dans la biodiversité du sol, les micro-organismes représentent une énorme part de cette biodiversité et abondance d'organismes. Ces micro-organismes sont très abondants, très diversifiés, et ils portent des fonctions qui sont très importantes, et si on doit en retenir qu'une, c'est la fonction de dégradation, minéralisation de la matière organique et donc de recyclage de carbone, des nutriments, des éléments minéraux, qui est notamment à la base de la fertilité des sols naturels, mais qui est aussi à la base de la structure du sol, parce que c'est par cette dégradation de la matière organique qu'on va fournir des petits ciments organiques qui vont permettre aux particules minérales de se coller et de faire ainsi des microagrégats, des macroagrégats, de la porosité et des habitats pour tous les organismes vivants du sol. Et puis ces micro-organismes, ils sont capables de tout dégrader, de tout manger. Et donc à un moment, même quand il y a des éléments polluants, toxiques, biocides, même contre eux, eh ben, ils sont capables de s'adapter et de dépolluer les sols par rapport à tout ce qu'on se met dessus, en agriculture, en industrie, dans les systèmes urbains, dans nos jardins aussi. Et ça, heureusement, parce que depuis le temps qu'on en met, tout serait vraiment impropre à la vie et à la consommation si ces micro-organismes ne dégradaient pas tout. Sauf que ben, ils sont pas des super-héros et des moments, ben, le cas du glyphosate, hein, ça s'accumule quand même et on a des problèmes de contamination à grande échelle. Et puis aussi, ben, on parle beaucoup de micro-organismes pathogènes, mais il faut savoir qu'il y en a aussi énormément qui sont non pathogènes et qui sont même capables de lutter contre certains pathogènes microbiens ou autres. Et donc, c'est toutes les notions de biocontrôle qu'on développe aussi en agriculture. Alors, on a fait, ça a été présenté lors de la première conférence, sur des essais expérimentaux où on diminue la biodiversité des sols, et notamment la biodiversité microbienne. C'est ce qu'on a fait, nous, au laboratoire, c'est les travaux de Pierre-Alain Marron. On est capable artificiellement de baisser la diversité microbienne d'un sol de 30, 50, 70%. Et dans ce sol, donc c'est la même matrice physico-chimique, mais avec différents niveaux de biodiversité microbienne, on a testé certaines fonctions. En conditions contrôlées, en microcosme. Et on peut voir que si on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, on baisse de 40% la minéralisation de la matière organique. Donc tout le recyclage des éléments, la structuration du sol, etc. Si on met des plantes à pousser sur ces sols avec une réduction de biodiversité, on perd 50% de la productivité végétale. Ça a été démontré sur de la luzerne. C'est une plante facile à mettre en serre, mais ça a été aussi démontré dans les stades précoces de développement du blé. Donc là, c'est une plante de grande culture. On perd 50% de la stabilité structurelle du sol. Ça, c'est à mettre directement en relation avec la perte de minéralisation de la matière organique et donc la fourniture de ciments qui sont capables de structurer le sol, de coller les particules pour former des agrégats. Et puis, résultat aussi intéressant, on augmente le temps de survie de pathogènes qui, normalement, ne s'implantent pas dans le sol. Ça, c'était un essai qui a été fait sur l'Hystéria monocytogenes, un pathogène humain, qui n'existe pas dans le sol et qui ne s'implante pas dans le sol. C'est-à-dire, quand il y a une bonne biodiversité dans le sol, il disparaît au bout de 5-6 jours, parce qu'il est éliminé par les bactéries indigènes. Et ben, quand on baisse de 30% la biodiversité microbienne, l'Hystéria peut rester 20, 25, 30 jours, et donc potentiellement développer un foyer épidémiologique, et donc développer des maladies. C'est vrai pour d'autres types de pathogènes, végétaux ou animaux. Donc on a vraiment un effet barrière au niveau du sol, comme au niveau du tube digestif, qui empêche la plupart du temps les pathogènes de s'implanter. Ça, c'est une petite vidéo que je vais lancer en espérant que vous la voyez. Si vous ne la voyez pas défiler, vous le dites. C'est un slack test. Donc, globalement, c'est le même sol avec différents niveaux de diversité hein, qui a été modifié artificiellement. Donc, diversité élevée, c'est la diversité initiale du sol. Moyenne, c'est moins 30% de diversité microbienne. Faible, c'est moins 50% de diversité. Et puis, carrément stérile. Et le slack test, donc, développé par la petite association Vert Carbone avec qui on travaille, c'est un test de terrain pour les agriculteurs qui peuvent tester la stabilité de leur sol quand on le met dans l'eau, donc globalement, comment il va résister à une grosse pluie. Ben, ce qu'on peut voir déjà sur le même sol, hein, la même physico-chimie, mais avec des niveaux de diversité différents, ben, que le lien entre la diversité microbienne et la stabilité, on avait un cadreur qui n'était pas très efficace, donc ça bouge un peu, et la stabilité structurelle du sol est directement liée, puisqu'on voit que le sol stérile est complètement dégradé. Celui avec une diversité faible est en train de complètement aussi se déliquer. Et ceux qui résistent le mieux sont la diversité moyenne et la diversité élevée. Alors, je vais avancer un petit peu la vidéo parce qu'elle dure. Voilà, au bout de 3 minutes, voilà, au bout de 4 minutes, en sachant qu'après, on a aussi un test ultime où on secoue le sol. Alors là, c'est vraiment une grosse, grosse pluie. Et on regarde ce qui reste. Et on peut voir que celui qui résiste le mieux, il reste à peu près 40% du sol initial. C'est celui qui a la diversité initiale la plus élevée. Donc voilà une petite démonstration simple, mais très rigoureuse en amont pour la baisse de diversité microbienne, du lien avec la stabilité structurelle. Cette diversité microbienne, comme je vous l'ai dit, elle est très importante dans le sol, des millions d'espèces par gramme de sol, hein, chez les bactéries, un peu moins chez les champignons. Et historiquement, on faisait du pastorien, on observait, on faisait pousser sur bois de culture. Ça, c'est plus trop le cas aujourd'hui, puisque par ces méthodes, on voyait que 1 à 5% de cette diversité microbienne. Donc aujourd'hui, on extrait l'ADN, tout l'ADN du sol, et on est capable de capter l'information génétique de tous les micro-organismes du sol. Et donc, on est capable aujourd'hui aussi de caractériser cet ADN, et on en a sorti des indicateurs. un qui est plutôt un indicateur qu'on appelle biomasse moléculaire microbienne. C'est une quantité d'ADN qu'on est capable d'extraire par sol. Et plus il y a d'ADN extrait, plus il y a de micro-organismes qui emportent. Et puis l'autre, c'est les nouvelles techniques de séquençage massif qui nous permettent de caractériser cet ADN, de séquencer cet ADN et d'en tirer donc des listes d'espèces et donc des vrais indices de diversité microbienne. Ces outils, alors, comme l'a dit Claudie, en 2002, il y a eu la mise en place du réseau de mesure de la qualité des sols. Et nous, en 2005-2006, on a commencé à travailler avec InfoSol, et on ne s'en lasse pas aujourd'hui, parce qu'on avait le rêve fou d'appliquer nos outils moléculaires sur le RMQS. Au début, on nous souhaitait bonne chance, comme si on rentrait dans une longue maladie, et je confirme, ça peut être une longue maladie, mais en tout cas, la fin est heureuse. Et aujourd'hui, ben, on est presque un des seuls pays, je crois même le seul pays, à avoir des cartes d'abondance et de diversité microbienne à l'échelle territoriale. Alors à gauche, vous avez la carte de la biomasse moléculaire microbienne, à droite, celle de la diversité bactérienne, et celle de la diversité des champignons est en train d'arriver. Elle sera là d'ici la fin de l'année, on est en train de finaliser ces résultats. Donc c'est bien, on a des cartes avec des couleurs rouges, des couleurs bleues, qui montrent une forte hétérogénéité de l'abondance et de la diversité microbienne. Déjà, on voit bien que ce n'est pas là où il y a peu de micro-organismes qu'on a obligatoirement peu de diversité, et inversement, il n'y a pas de lien linéaire entre l'abondance et la diversité des micro-organismes. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a pas de sol mort. Tous les sols ont de la vie microbienne, et tous les sols ont de la diversité, notamment bactérienne, et je vous confirme aussi sur les champignons. Mais on a des sols plus ou moins vivants. En bleu, il y a moins d'abondance et moins de diversité. En rouge, quand c'est plus chaud, il y a plus d'abondance et plus de diversité sur les différentes cartes. Et si on regarde un peu les paramètres de l'environnement qui peuvent structurer ces différences d'abondance et de diversité microbienne à l'échelle de la France, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, premier intervenant, tout d'abord, on a un effet sol, pédo, pas climat. Ça a été surprenant. On n'a pas d'influence de climat directe sur l'abondance et la diversité des micro-organismes, mais sur la biomasse moléculaire, il y a un effet sol et puis il y a un effet mode d'usage. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de micro-organismes dans des sols de forêt et de prairies et un peu moins dans les cultures et encore un peu moins dans les vignes et vergers. Bon, ça, ce n'est pas totalement illogique. Il y a moins de carbone aussi dans les sols cultivés, dû aux pratiques agricoles. Et puis, on a beaucoup d'agressions, et notamment de biocides, de labour du sol, de mauvaise couverture végétale, qui peuvent expliquer une baisse de l'abondance microbienne. Si on regarde la diversité bactérienne, il y a tout d'abord encore un effet sol, donc voilà, avec une influence du pH, de la texture, du taux de carbone, du C sur N, etc. Et un effet mode d'usage en deuxième hiérarchie. Et là, c'est l'inverse de la biomasse. On a plus de diversité dans les systèmes cultivés, notamment vignes, vergers et cultures, par rapport aux prairies et forêts. Alors, les différences sont moins flagrantes que pour la biomasse, mais il y a quand même une forme de hiérarchie. Et ça, on l'explique assez facilement en écologie microbienne par la loi de la perturbation intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a un maximum de diversité dans des environnements qui sont perturbés et moyennement perturbés. Et ça, c'est vrai pour des organismes comme les bactéries, qui sont des organismes très petits avec des génomes simples et qui sont capables de s'adapter très rapidement à des perturbations de l'environnement. Et ben, la perturbation qu'on leur amène au niveau des sols agricoles est une perturbation moyenne et qui vient exciter les bactéries et qui vient faire créer de la diversité. Donc ça, c'est plutôt positif, notamment pour l'agriculture. Et quand on présentait ces résultats au début, les agriculteurs étaient très, très intéressés et contents de ne plus être trop stigmatisés. Mais on allait un peu plus loin. Et on a allé sur la nécessité d'aller plus loin qu'un simple indice de diversité et de regarder comment cette diversité était en interaction. On s'est un peu calé sur des métriques de réseaux sociaux où on a tous des smartphones ou d'autres moyens et on interagit, on communique avec certains, jamais avec d'autres. Et bien, c'est pareil au niveau des interactions dans des communautés microbiennes. Ça a été un peu présenté ce matin avec les réseaux trophiques. Là, c'est des interactions de co-occurrence. On a calculé ces réseaux d'interaction, ces réseaux de co-occurrence entre les bactéries sur les sols du RMQS. Alors, voilà ce que donne le réseau du RMQS, mais bon, tout seul, comme ça, à l'échelle nationale, les boules sont des taxons et les traits verts sont des interactions positives, les traits rouges sont des interactions négatives. Ça n'a pas beaucoup d'informations d'avoir un réseau très complexe à l'échelle du RMQS. Ça a plus d'informations quand on compare les réseaux d'interaction qu'on obtient en fonction des sols sous certains modes d'usage. Et quand on compare les réseaux d'interaction de forêt et de prairie, ben on peut voir qu'on a des réseaux relativement complexes. On peut voir que la prairie elle est un peu moins complexe, puisqu'il commence un petit peu à se séparer en deux parties. Et quand on compare à ceux de culture et de vigne, là, on a une simplification très importante des réseaux d'interaction sous la grande culture et sous la vigne, et notamment avec des petits satellites, on voit, hein, qui sont en train de s'isoler, c'est-à-dire des petits groupes de bactéries qui n'interagissent plus avec le vaisseau mère, avec le réseau d'interaction de la communauté. Et ce que l'on sait, dans les théories écologiques qui ont été démontrées, pas pour les micro-organismes, mais d'autres pour les organismes supérieurs, c'est que plus un réseau d'interaction est simple, moins il est complexe et cohésif, eh ben, globalement, plus la communauté est instable, en tout cas, moins elle est résistante à des perturbations environnementales, et potentiellement aussi, elle est moins fonctionnelle pour remplir les grandes fonctions qu'on lui demande de remplir, comme la minéralisation de la matière organique, la structuration du sol, etc. Donc, OK, on a une diversité bactérienne qui augmente dans les sols agricoles, mais on a des communautés bactériennes qui sont moins en interaction et qui sont potentiellement moins robustes, moins stables et moins fonctionnelles. On a aussi d'autres outils qui arrivent en mode recherche, qu'on appelle l'inférence fonctionnelle, c'est-à-dire que nos listes d'espèces, on est capable de les relier à des listes de gènes d'activité et donc de lier des fonctions, voire des traits écologiques aux populations qu'on a dans nos communautés. Et ainsi, de donner un peu une signature écologique à nos communautés. Aujourd'hui, on est relativement basique. On identifie les saprophytes, ceux qui dégradent la matière organique, donc ceux qui sont intéressants, notamment pour la fertilité, les symbiotiques, ceux qui rentrent notamment en relation avec les plantes pour les améliorer à se développer, et puis les pathogènes, qui sont un peu moins sympathiques. Alors là, quand je parle de pathogènes, c'est tout type de pathogènes, humains, animaux, végétaux, etc. Et ce que l'on voit, quand on compare encore les sols du RMQS, forêt, prairie et culture, on n'a plus les vignes parce qu'il n'y avait pas assez de sol, c'est qu'on a plus de diversité quand on va vers les grandes cultures, mais on a moins de saprophytes, c'est-à-dire on a moins de bactéries qui vont être capables de dégrader la matière organique et de la dégrader en interaction avec le reste de la communauté. Au niveau des symbiotiques, on a une stabilité entre les trois modes d'usage. Et au niveau, par contre, des pathogènes, eh ben, on a une augmentation des pathogènes dans les sols de culture. Ce qui confirme un peu ces réseaux d'interaction qui se simplifient. Les pathogènes sont souvent opportunistes, travaillent souvent pas dans la communauté et de façon isolée ou en petits groupes. Et donc, ben, on a une augmentation des populations opportunistes, potentiellement pathogènes, ce qui explique aussi à la dégradation des réseaux, malgré un indice de diversité qui augmente. Bon, au niveau du RMQS, je passe rapidement, on a aussi défini pour la première fois les cartes des habitats bactériens à l'échelle de la France. On a défini 16 habitats bactériens qui prennent en compte le type de sol, le climat, la géomorphologie et le mode d'usage. Et ces habitats, alors c'est très fondamental, mais c'est très important parce que quand on définit des habitats, c'est qu'on est capable de préserver des habitats à partir du moment où ils sont définis et localisés comme la carte vous le montre. Et donc, on rentre dans une écologie de la conservation, mais aussi on rentre dans des recommandations aux politiques publiques en disant attention, cette zone est importante parce qu'on a certains habitats, notamment pour les bactéries et les champignons, qui n'étaient pas trop pris en considération en ce moment, enfin, jusqu'à présent, parce qu'on ne les connaissait pas. Et donc, on peut après faire de la préservation de ces habitats. Alors, on a sorti un atlas français des bactéries du sol qui reprend un peu tous les résultats que je vous ai montrés. Et puis, pour venir sur des choses plus opérationnelles, ben voilà, le RMQS, c'est des très beaux résultats, c'est de la biogéographie, c'est la régulation des communautés, la hiérarchie des paramètres, de l'environnement pour expliquer l'abondance et la diversité microbienne, mais c'est aussi, d'un point de vue opérationnel, des référentiels d'interprétation. C'est-à-dire que sur l'abondance microbienne et sur la diversité bactérienne, c'est un jeu de données incomparable pour pouvoir transformer nos outils de recherche en outils de diagnostic, et notamment la biomasse moléculaire microbienne, la diversité bactérienne et bientôt la diversité des champignons deviennent des bio-indicateurs et des vrais bio-indicateurs avec une méthode standardisée et un référentiel d'interprétation. Et aujourd'hui, grâce au RMQS, hein, on ne le voyait pas du tout, on ne l'avait pas du tout dans nos prévisions au départ, on est capable de faire un diagnostic de la qualité microbiologique des sols avec un vrai référentiel d'interprétation. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les données du RMQS, notamment physico-chimie des sols, par rapport aux valeurs de biomasse et valeurs de diversité, et on a des modèles, un peu comme une analyse de sang, qui nous permettent d'avoir une référence pour une parcelle donnée en fonction de sa physico-chimie. Et après, il suffit de comparer cette valeur de référence à la valeur mesurée, exactement comme une analyse de sang, hein, où on vous compare à une cohorte d'autres patients qui ont le même âge, le même sexe, le même mode de vie, et qui vivent dans la même région que vous. Et ben là, on va comparer une nouvelle parcelle avec les parcelles similaires que l'on a dans le RMQS, et ainsi évaluer un diagnostic. On a fait un ouvrage aussi sur la possibilité de faire du diagnostic environnemental. Et donc, ces outils, eh ben, on les a depuis une dizaine d'années, d'un point de vue standardisé. Et donc, ça nous a permis de développer des projets participatifs directement avec les agriculteurs, et justement, où on rapproche le monde de la recherche et le monde agricole. C'était le projet Agrinov qui a commencé en 2010. Et on a mis en place 250 parcelles agricoles et viticoles à l'échelle de la France. Vous avez la répartition géographique. On a développé des formations théoriques et pratiques sur la biologie des sols. Et puis, on a validé avec les agriculteurs et les viticulteurs un tableau de bord de bio-indicateurs. Donc, il y avait les micro-organismes. Et cela a été opérationnel en termes de diagnostic, mais aussi les vers de terre et les nématodes. Alors, je vais passer rapidement sur les résultats. Mais déjà, on a démontré que seulement à peu près 10 à 15 % des parcelles agricoles et viticoles étaient dans le rouge au niveau qualité biologique. Donc déjà, les sols agricoles ne sont pas morts. On enlève un certain fantasme ou une certaine stigmatisation des impacts agricoles. Bon, toutefois, il y a quand même un problème agricole puisque 60% des parcelles sont dans l'orange. Donc une qualité biologique intermédiaire qu'on appelle non critique, mais à surveiller. Et puis un bon tiers des parcelles sont avec une bonne qualité de biologie des sols. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 97% des agriculteurs sont allés jusqu'au bout du processus. Et surtout, quand on est revenu 18 mois après la fin d'AgriNov, 59% des agriculteurs et des viticulteurs ont commencé à changer leurs pratiques sur la base des résultats qu'ils avaient eus, parce que tout simplement, on était capable, grâce à nos outils, de confirmer certaines observations ou certaines tendances qu'ils étaient en train de donner à leurs pratiques pour améliorer leur côté vertueux et environnemental. Alors, on a, je passe les détails, mais on a aussi permis de hiérarchiser l'ensemble des pratiques agricoles sur la qualité, notamment microbiologique. On sait que le labour, c'est relativement négatif pour la microbiologie des sols, même si sur la diversité des bactéries, la perturbation labour, dans certains cas, peut augmenter la diversité. Globalement, c'est quand même relativement négatif. Une rotation diversifiée, longue, avec des intercultures, c'est-à-dire une très bonne couverture des sols dans l'espace et dans le temps, et diversifiée, c'est très bien pour la biologie du sol et la microbiologie des sols. Les engrais chimiques ne sont pas mauvais, ils sont neutres, ils n'ont pas d'impact. Par contre, on les compare toujours aux amendements organiques, qui eux sont très vertueux et stimulent énormément l'abondance et la diversité microbienne. Donc oui, les amendements organiques sont bien meilleurs que les engrais chimiques. Et puis, la baisse des pesticides est démontrée comme biocide et comme impactante. Toutefois, des fois, on a le smiley qui interroge, c'est plutôt sur la notion d'agriculture biologique qui compense souvent notamment un désherbage chimique par un désherbage mécanique. Et donc, au final, l'agriculture bio n'est pas toujours si, j'ai envie de dire, écolo que ça au niveau de la biologie du sol, parce que des fois, on a un travail du sol un peu abusif. Et donc, si on a un petit peu réflexion, notamment en termes de grands cultures, en ce moment, on a deux mouvements, l'agriculture biologique qui est un petit peu historique et l'agriculture de conservation des sols, qui a une vingtaine d'années. L'agriculture de conservation des sols, elle, ne travaille pas le sol, donc ce qui est relativement bien pour les micro-organismes. Elle a des rotations longues et diversifiées, mais elle utilise encore des engrais chimiques et des phytos, alors que l'agriculture biologique, elle ne travaille encore beaucoup le sol, mais elle utilise des amendements organiques et elle n'utilise plus de pesticides de synthèse, donc des choses assez vertueuses. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire, d'un point de vue peut-être un peu simpliste, et d'un point de vue d'écologue du sol, que le mariage des deux serait peut-être le mariage parfait, avec une nouvelle itinéraire technique qui ne labourerait plus ou qui labourerait moins, qui n'utiliserait plus de pesticides de synthèse ou moins, des amendements organiques et des rotations longues et diversifiées. Ça, quand je le dis aux agriculteurs, ils ne sont pas surpris parce qu'ils le savent déjà et ils sont déjà en train de l'essayer, mais techniquement, ça a l'air compliqué à mettre en œuvre. Je vais finir, s'il me reste un petit peu de temps, quelques minutes, sur un projet qui est en cours, qui est toujours un projet avec des approches participatives, qui s'appelle Ecovitisol, et comme son nom l'indique, il est sur les vignes. L'originalité de ce projet, c'est de rentrer par les modes de production, c'est-à-dire de comparer et d'assumer cette comparaison entre biodynamie, bio et conventionnel, en sachant qu'on avait beaucoup de questionnements sur la biodynamie, notamment du monde agricole, qui nous interpellait, est-ce que la biodynamie, c'est vraiment mieux que le bio ou que le conventionnel, et qu'on n'avait aucune référence là-dessus, notamment au niveau expérimental à l'INRA ou ailleurs. Et puis, parce qu'à un moment, il faut rentrer par ces modes de production par rapport aux questions qu'on nous pose, ça n'empêchait pas aussi qu'on allait à un niveau plus fin sur les pratiques. Et donc, on a mis en place un réseau de 150 parcelles viticoles échantillonnées avec les viticulteurs. Un tiers se trouve en Alsace, à Colmar, et les deux autres tiers en Bourgogne, avec la Côte de Nuit et la Côte de Beaune, et puis Mâconnais, Chalonnais. Donc on a ainsi 150 parcelles. Aujourd'hui, 75 sont échantillonnées et analysées, et on va échantillonner, enfin on va les échantillonner pendant le confinement, à nouveau. On essaye quand même d'y aller et de faire cet échantillonnage-là. On a appliqué nos outils de microbiologie moléculaire en termes d'indicateurs, les mêmes, biomasse microbienne, diversité microbienne, bactéries, champignons. On a fait un diagnostic de la qualité microbiologique de ces parcelles. Et puis, on est allé un peu plus loin avec les réseaux d'interaction et l'inférence fonctionnelle. Voilà ce que ça donne, je vous le mettrai rapidement. Ce sont des résultats préliminaires issus de 75 parcelles. Donc, ça commence à être robuste, mais ça va être confirmé par encore 75 parcelles qu'on va échantillonner là cet automne et on aura la confirmation l'année prochaine. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en biodynamie, on a plus de parcelles qui sont dans le vert en termes de bilan de la qualité microbiologique par rapport au bio et par rapport au conventionnel. C'est-à-dire qu'on a une forme de hiérarchie entre conventionnel, bio et biodynamie vers une aggradation de la qualité microbiologique des sols. Toutefois, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout n'est pas dans le vert en biodynamie et tout n'est pas dans le rouge en conventionnel raisonné. C'est-à-dire qu'on a plus de parcelles dans le vert que dans le conventionnel en biodynamie et même que dans le bio, mais on en a aussi dans le rouge. et dans l'orange notamment. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ben, tout le monde est perfectible. Et que voilà, certains font de la biodynamie, mais ils sont encore perfectibles, et notamment en termes de qualité microbiologique. Donc il n'y a pas de clivage entre les modes de production, il y a juste amélioré ces pratiques, bien sûr avec des objectifs de rentabilité et de production et de qualité hein, pour le vin, mais aussi des objectifs environnementaux et de durabilité, parce qu'il faut considérer dans les sols agricoles que la biodiversité est synonyme de durabilité, notamment de sa production. On est allé bien sûr à une échelle un peu plus fine sur l'impact des pratiques viticoles et globalement, on confirme ce qu'on avait déjà vu un peu sur Agrinov. Le travail du sol, ce n'est pas bon. L'enherbement est très bon. Alors ça, c'est une vraie thématique en vigne. L'enherbement est une pratique qui améliore énormément la qualité microbiologique du sol, surtout qu'elle est souvent combinée à moins de travail du sol quand on commence à enherber ses sols. Après, on a des problèmes de cahier des charges sur des territoires où il y a 10 007 hectares, où il y a de la compétition avec la vigne pour l'eau ou certains éléments miniers. Les amendements organiques, je mets un petit smiley parce qu'on avait quelque chose qui n'était pas significatif, mais généralement c'est bon. Quelque chose qu'on a découvert avec Ecovitisol et qu'on étudiait peu à peu, la restitution de sarments dans les vignes est une pratique qui est très vertueuse pour la qualité microbiologique. Chaque fois qu'on a une parcelle qui restitue ses sarments et qui ne les exporte pas ou qui ne les brûle pas, comme ça se fait beaucoup en Bourgogne, on a une amélioration de la qualité microbiologique du sol. Et enfin, au niveau des pesticides, ben, on a démontré aussi que plus on augmente le nombre de familles de biocides, et notamment en synthèse, plus on baisse la qualité microbiologique des sols. Pour finir, on a fait des réseaux d'interaction microbiens par mode de production, ces fameux réseaux d'interaction de co-occurrence. Là, c'est entre bactéries et champignons. On peut voir qu'on obtient un réseau relativement complexe sur les parcelles conventionnelles, avec 1400 liens. On obtient 1700 liens sur les réseaux de parcelles qui sont en bio, donc une amélioration du nombre de liens, et résultat qui nous a énormément surpris, on n'avait jamais vu autant de différences. Sur la biodynamie, on obtient un peu plus de 40 000 liens en comparaison des 1700 et des 1400 sur le bio et le conventionnel respectivement. C'est-à-dire qu'on a une explosion du nombre d'interactions entre les bactéries et les champignons dans les parcelles de biodynamie. Et aujourd'hui, alors c'est un résultat qui a quelques semaines, hein, donc c'est un résultat encore une fois qui est préliminaire. Donc je sais que ce diaporama va être diffusé notamment via une université virtuelle. Ce sont des résultats préliminaires et qu'on va conforter avec la deuxième campagne d'échantillonnage cette année, avec autant de parcelles, c'est-à-dire 75. Mais je me doute qu'on risque fortement de confirmer ce résultat. En tout cas, en biodynamie, on voyait une augmentation progressive de la qualité microbiologique, hein, mais on n'était pas aussi beaucoup plus important que le bio ou le conventionnel. Mais au niveau des réseaux d'interaction, on a des communautés qui interagissent beaucoup plus et qui donc potentiellement sont plus fonctionnels. Voilà, encore une fois, ce sont des résultats préliminaires et on va attendre la deuxième année d'analyse pour confirmer tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que le son et l'image sont bien passés pour la plupart des gens qui étaient autour du webinaire.